Quel est selon vous, pour vous, le verset le plus célèbre de toute la Bible? Jean 3,16. Alors, est-ce qu'il y a d'autres propositions? Philippiens 3,16. Le plus célèbre de la journée, oui peut-être. Qui pense que Jean 3,16 est le verset le plus connu, en tout cas dans le monde chrétien? Oui, moi aussi, je pense que c'est un verset vraiment qu'on a tendance à voir à beaucoup d'endroits. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais la vie éternelle. C'est un verset par lequel Dieu nous fait une promesse extraordinaire. Tout individu, quel qu'il soit, héritera de la vie éternelle s'il a une foi personnelle en Jésus. Peu importe la famille dans laquelle nous sommes nés, peu importe le pays dans lequel nous vivons, la culture dont nous avons été imprégnés, ou notre appartenance ethnique, peu importe même notre passé. Ce verset nous dit, peu importe ce qui vous environne, peu importe ce que vous êtes, peu importe ce que vous avez pu faire, peu importe tout cela, ce qui compte, c'est que vous, personnellement, vous croyez en Jésus. Si vous croyez, alors vous êtes sauvés. Nous avons vraiment ici l'expression du salut individuel, du salut qui ne dépend de rien d'autre que de la foi personnelle. Alors on considère Jean 3,16 comme étant un verset clé. C'est pour ça que c'est souvent un verset qui est présenté aux non-chrétiens. On trouve ça sur les autocollants, des t-shirts. Parce que c'est le verset qui permet à quiconque croit de se réconcilier avec le Seigneur. Mais nous oublions parfois que comme toutes les clés, ce verset ne fait qu'ouvrir la porte vers autre chose. Car le salut individuel n'est pas le plan de Dieu pour nous. Ce n'est que le début seulement. Car la finalité de Dieu n'est pas de sauver des gens épars, la finalité de Dieu, c'est de se constituer un peuple. Un peuple tellement uni, tellement soudé et complémentaire, que l'image que Dieu utilise dans la Bible pour décrire cela, c'est celui de son corps. Ce peuple, ce corps du Christ, est également désigné par un autre nom dans la Bible, c'est l'Église. Le plan de Dieu pour tout individu qui a été sauvé par Jésus-Christ, c'est d'appartenir à l'Église. Et pas seulement d'appartenir à ce grand peuple de Dieu, ce peuple disséminé sur toute la terre que nous appelons parfois Église universelle ou Église invisible, tant ses contours sont parfois difficiles à cerner. Le plan de Dieu, c'est que chaque individu rejoigne et trouve sa place au sein d'une communauté particulière, l'Église locale. Une Église bien visible, une Église qui a son identité propre et dans laquelle Dieu a le projet de nous faire grandir, mais aussi dans laquelle Dieu a le projet que nous aidions à faire grandir nos frères et sœurs. Ce matin, je vous propose quatre étapes de la vie du chrétien. La première nous fera partir du salut individuel. Et la quatrième, la dernière, nous fera arriver à la croissance dans l'Église locale, à la croissance spirituelle. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Du salut individuel à la croissance dans l'Église locale ». Alors je ne sais pas si vous avez tous eu une petite feuille comme celle-ci. Philippe en avait distribué quelques-unes au début. Et là, je vois que Philippe est parti. Je me demande s'il n'est pas parti avec les petites feuilles. Est-ce que vous avez tous une feuille comme celle-ci? En tout cas, oui, si jamais. Mais Philippe, il doit en avoir plein, oui. Tu peux demander à Philippe, oui, je pense qu'il est... Peut-être que les enfants sont en train de faire des petits avions avec. Alors en fait, cette feuille va simplement reprendre le plan de mon message. du salut individuel à la croissance dans l'Église locale. Quatre étapes sur quatre textes bibliques qui ont tous une caractéristique commune. Je ne sais pas si vous avez remarqué laquelle. Tous ont 3:16 comme référence. De quoi nous aider à mémoriser ce cheminement qui transforme un individu isolé, loin de Dieu, en un membre vivant du corps de Christ. Alors bien évidemment, nous partirons du verset clé, Jean 3:16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset témoigne de l'attitude extraordinaire de Dieu envers l'humanité. Aucun être humain ne mérite d'obtenir la vie éternelle. Tous sont perdus, sans exception. Il n'y a pas une exception. Mais quiconque croira en Jésus, alors recevra de Dieu le salut. Et peu importe, et ça c'est quelque chose qui peut être choquant, peu importe ce que nous avons pu être ou bien faire, peu importe les rapports que nous avons pu avoir avec les autres personnes, nous pouvons être l'individu le plus solitaire, le plus indépendant et même le plus égoïste qui soit, si jamais la foi de Jésus naît dans l'étroitesse de notre cœur, dans la dureté de notre cœur, Dieu nous accorde la vie éternelle. Nous devenons alors un enfant de Dieu, un membre du corps de Christ, un membre de l'Église universelle. L'entrée dans le peuple de Dieu est vraiment une affaire individuelle. Cela ne se passe qu'entre Dieu et nous. Les autres ne comptent pas. Même les plus individualistes, les plus égocentriques, obtiennent par la foi la vie éternelle et entrent dans la famille de Dieu. Mais, parce qu'il y a un mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu nous donne, qu'est-ce que Dieu nous donne ? Qu'est-ce que Dieu nous donne ? La vie éternelle ? Et Dieu nous donne également ? Une nouvelle priorité ? Parce que Dieu nous donne un nouvel... Voilà, oh, j'ai eu peur. Dieu nous donne son esprit, et l'esprit de Dieu qui vit en nous va bouleverser le rapport que nous entretenons avec les autres, et en particulier les rapports que nous entretenons avec les autres chrétiens. Jésus est venu nous chercher et nous sauver pour nous arracher à notre individualisme afin de nous ouvrir à l'amour. L'amour pour Dieu, bien sûr, mais également à l'amour pour nos frères et sœurs, à l'amour pour le corps dont nous faisons partie. C'est notre deuxième étape dans la vie chrétienne. Notre amour pour Dieu nous fait aimer nos frères et sœurs. Et c'est notre deuxième 3:16. 1 Jean 3:16. Facile pour s'en souvenir. Jean 3:16 et 1 Jean 3:16. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Ça, nous le savions. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Parce que Jésus a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. L'amour pour nos frères et sœurs en Christ est la conséquence certaine de notre foi et de notre amour pour Dieu. À tel point que deux versets plus haut, alors je trouve formidable de décrire des petites feuilles, le problème c'est que peut-être vous n'avez pas ouvert vos Bibles, mais deux versets plus haut, en 1 Jean 3:14, il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Et comment le savons-nous ? Parce que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Si quelqu'un pense avoir reçu de Christ la vie éternelle, mais qu'il n'aime pas ses frères et sœurs, la Bible nous dit que cette personne se trompe sur son appartenance au peuple de Dieu. Elle n'a pas été sauvée par Jésus-Christ, elle est encore morte. L'Esprit de Dieu n'habite pas en elle. Au contraire, tout véritable chrétien né de nouveau aime ses frères et sœurs. Et comme Christ a donné sa vie pour lui, il est prêt à donner sa vie pour ses frères et sœurs. L'individualisme, contrairement au salut, l'individualisme n'a pas sa place dans le peuple de Dieu. L'amour fraternel est la conséquence du salut individuel. Donc pour bâtir son Église, Dieu dispose d'un matériau de choix, des hommes et des femmes qui s'aiment suffisamment pour se considérer comme étant frères et sœurs en Christ, et qui sont prêts à vivre les uns pour les autres. Alors quand on veut constituer un groupe, ça c'est quelque chose de formidable. Parce que qu'est-ce que font des personnes qui s'aiment et qui se soucient les unes des autres? Eh bien, elles se retrouvent ensemble. C'est notre troisième étape dans la vie chrétienne. Nous prenons la décision de nous joindre à d'autres chrétiens et d'avancer ensemble. En Apocalypse 5,9, il est écrit « Dieu se constitue un peuple de toute langue, de toute race, de toute nation. » Alors cela signifie qu'au sein de l'Église universelle, la diversité existe. La diversité est inhérente au peuple de Dieu. Mais cette diversité est telle qu'elle peut rendre très difficile, voire même impossible, la réunion de tous les chrétiens. Alors déjà, l'éclatement géographique nous empêche de pouvoir nous réunir tous ensemble. Alors, est-ce que vous pensez que vous avez des frères et sœurs en Australie? Sûrement. Moi, je pense que oui. Mais comment imaginer pouvoir nous réunir avec nos frères et sœurs qui habitent à 20 000 km d'ici? Ensuite, il y a la barrière de la langue. Comment nous entendre si nous ne parvenons pas déjà à nous comprendre? Et puis, nous n'avons pas tous la même culture. Nous n'avons pas tous la même mentalité. Nous n'avons même pas tous la même compréhension de certains passages bibliques. Alors, comment espérer tisser des relations intimes avec autant de personnes différentes et aussi avec autant de personnes à la fois, des millions de personnes? Des fois, on est même frustré parce que le dimanche, on n'a même pas le temps de tous se saluer. Et encore, nous ne sommes pas très nombreux. Alors si on devait être une église de l'an, je ne sais pas du tout combien il y a de chrétiens dans le monde. Je ne sais pas si c'est 100 millions, 500 millions, je n'en ai pas la moindre idée. Mais on va dire, on va être très 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 modeste. Admettons même qu'il n'y a qu'un million de chrétiens dans le monde. Alors je ne sais pas si vous imaginez, on va faire une église avec un million de personnes. Ben, si à la fin de votre vie, vous avez déjà réussi à parler deux minutes avec chaque personne, ben, franchement, vous êtes chapeau. Je ne suis pas amusé à calculer, mais ça se trouve que ce n'est même pas possible. Il est impossible de tisser des relations de proximité, des relations de qualité avec des gens aussi nombreux et aussi avec des gens qui sont si éloignés de nous. Ce n'est pas possible, mais heureusement, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous rapprocher d'autres chrétiens qui sont suffisamment proches de nous pour que nous puissions décider une chose, que nous puissions décider de marcher ensemble. Des différences demeurent, et heureusement, mais nos points de convergence nous permettent de dire que là où nous en sommes, marchons dans la même direction. C'est notre troisième verset en 3,16, et c'est d'ailleurs donc celui qui est écrit sur le mur. Là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Là où nous sommes tous différents. La diversité fait partie du corps de Christ, mais à un moment donné, malgré nos différences, nous réalisons à quel point nous sommes proches de certains de nos frères et sœurs. Ce qui est normal, puisque nous avons le même Père, le même Esprit. Cette proximité fraternelle, cette proximité géographique, nous permet alors de nous joindre à d'autres frères et sœurs afin de marcher ensemble dans la même direction. Et ça, c'est la définition d'une église locale. Un groupe de chrétiens qui se rassemblent au nom de Christ, sous l'autorité de Christ, afin de marcher, non pas chacun de son côté, mais de marcher ensemble dans la même direction. Marcher dans la même direction implique que nous sommes d'accord à la fois pour cheminer ensemble, mais aussi que nous sommes d'accord sur la direction à prendre. Cela nécessite une unité de vue, une même vision, afin que la direction prise soit agréée par tous. Car le but n'est pas de laisser des personnes derrière. Le but n'est pas d'aller à un à droite, l'autre à gauche, mais de marcher ensemble. Parce que si jamais cette unité n'est pas atteinte, qu'est-ce que fait l'Église ? L'Église éclate. L'Église se divise. Il est donc important, aussi bien pour celui qui désire devenir membre de l'Église locale que pour l'Église qui accueille, de savoir si là où nous en sommes nous permettra bien d'avancer ensemble. Alors c'est pour cette raison que dans notre Église, nous demandons aux futurs membres d'adhérer avec notre confession de foi et avec nos principes ecclésiastiques. C'est-à-dire, pour simplifier, d'être d'accord avec les points essentiels de notre foi et d'être également d'accord avec notre mode de fonctionnement. Et c'est également pour cela que l'on devient membre suite au vote d'acceptation de ceux qui sont déjà membres de l'Église. Le futur membre de l'Église, aussi bien que ceux qui l'étaient déjà, manifestent ainsi chacun que là où ils en sont, ils ont décidé de marcher dans la même direction. Et justement, six personnes qui fréquentent notre Église depuis un certain temps, alors il y a Natacha et Robert, Chantal qui n'est pas là parce qu'elle garde sa maman, et Jean, mais également Martine et Simon, qui ont manifesté leur désir de devenir membres. Alors nous étions déjà heureux de les avoir à nos côtés, mais nous serons encore plus heureux de les voir participer avec nous aux décisions importantes par lesquelles les membres décident de la décision que doit prendre l'Église. Parce que c'est comme ça que ça se passe chez nous. Ce sont les membres, ensemble, qui prennent les décisions importantes pour l'Église. Donc tout à l'heure, à l'issue du culte, ceux qui sont déjà membres de l'Église donc, se retrouveront dans la salle des colonnes et pourront manifester au travers de leur vote de leur désir de voir ces six personnes marcher avec eux dans la même direction. Alors, c'est la façon de procéder dans notre Église. Cette façon n'est ni biblique, ni anti-biblique. Selon les cultures ou dans d'autres églises à d'autres époques, les choses peuvent se passer de façon très différente. Mais peu importe la manière de procéder, ce qui est important et ce qui réjouit Dieu, c'est de voir que plusieurs de ses enfants se rassemblent en son nom et décident ensemble, tous les deux, de chaque côté, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. Cela réjouit Dieu parce que c'est en compagnie de nos frères et sœurs, c'est au sein de l'Église locale que nous allons mutuellement nous soutenir et grandir en Christ. C'est notre quatrième étape. Animés par Christ, nous trouvons notre place et nous nous enrichissons mutuellement dans l'Église. Et c'est également notre quatrième 3.16, Colossiens 3.16. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. L'Église n'est pas qu'un rassemblement de chrétiens. L'Église est plus que cela. Nous sommes plus qu'un club de gens qui partagent le même hobby. L'Église est le corps vivant de Christ. Un corps composé de membres différents, de membres qui se complètent et qui se soutiennent mutuellement. Et parce que le Seigneur habite dans chacun de ses membres, dans chacun des membres de l'Église, nous pouvons mutuellement nous soutenir et nous encourager dans notre marche avec le Seigneur, comme le dit notre verset. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. Au sein de l'Église, nous avons tous des choses à recevoir des autres. Mais au sein de l'Église, nous avons également tous des choses à donner aux autres. C'est réciproquement, c'est mutuellement, c'est ensemble que nous grandissons en Christ. Pas tout seul, mais ensemble. Et cette croissance spirituelle se fait au travers de toutes sortes de moyens. C'est vraiment une richesse que nous puissions recevoir de l'un un enseignement, de l'autre une parole d'encouragement ou bien une mise en garde. C'est une richesse que nous puissions être interpellés par une lecture biblique proposée par l'un ou stimulés par un cantique qu'un autre va entonner. Et la liste n'est pas exhaustive. Il y a bien des manières par lesquelles nous pouvons être soutenus par nos frères et sœurs. Il y a bien des manières par lesquelles nous pouvons également soutenir nos frères et sœurs dans leur marche avec Christ. Et tout cela est possible si, selon Colossiens 3:16, la parole de Christ habite dans chacun des membres et que tout se fait sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire que c'est Christ qui doit être à la tête de l'Église et que c'est Christ qui doit être au centre de la vie de chacun des membres de l'Église. Et cette unité en Christ, mais diversité au sein des membres de Christ, cette complémentarité devient une force et la richesse de l'Église. Une unité et une diversité qui permet de grandir en Christ et qui permet également à chacun de trouver sa place dans l'Église. Et pas n'importe quelle place, la meilleure des places, la place qui nous correspond vraiment parce que Dieu nous a préparés et parce que Dieu nous a formés, équipés pour que nous puissions prendre cette place dans l'Église. Parce que l'Église est le corps de Christ, parce que Christ aime son corps et parce que Christ prend soin de son corps. Il est écrit dans la Bible que parce que Christ prend soin de son corps, il accorde à chacun de ses membres, les membres de son corps, des dons dans le but que ces dons soient exercés pour le bien de tous. Dieu nous a préparé une place dans l'Église. Une place spécialement faite pour nous, une place qui nous correspond tout à fait. Une place qui va nous permettre de grandir spirituellement. Une place qui va nous permettre d'aider les autres à grandir à la ressemblance de Christ. Avez-vous déjà discerné les dons que Dieu vous a accordés? Avez-vous déjà trouvé votre place dans l'Église? C'est pour ça que j'en profite pour faire une petite publicité. Notre week-end de rentrée d'église aura justement pour thème les dons spirituels. Je vous invite vivement à participer à ce week-end d'église qui aura lieu donc au château de Joude dans 3 semaines. Et pensez à vous inscrire, la feuille est sur la table près de l'entrée. Voici, nous avons rapidement parcouru le plan de Dieu pour ses enfants. Dieu vient nous chercher et nous sauver individuellement. Dieu met en nous l'amour pour nos frères et sœurs en Christ. Dieu désire que nous rejoignions d'autres chrétiens afin que nous marchions ensemble dans la même direction. Dieu désire que nous trouvions notre place dans l'Église et qu'avec nos frères et sœurs, nous puissions mutuellement grandir en Christ. Dieu a un projet grandiose pour nous. Et ce projet grandiose, Dieu a prévu de le réaliser au sein de l'Église locale. Mais ce projet, nous ne pourrons le réaliser que si nous décidons que là où nous en sommes, aujourd'hui, maintenant, là où nous en sommes, nous allons marcher dans la même direction. Alors ce ne sera pas facile. La diversité fait que parfois les choses ne sont pas forcément faciles, mais cela en vaut vraiment la peine. Et si jamais c'est Christ qui nous unit, et j'espère que c'est le cas, si c'est Christ qui nous anime, si c'est Christ qui nous conduit, alors ensemble, en tant qu'Église, nous allons pouvoir réaliser le projet grandiose que Dieu a pour nous. Amen. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur Dieu vivant, je veux te remercier de ce que tu ne nous as pas laissé dans notre isolement, isolement de cœur, étroitesse de pensée et d'esprit, mais que tu es venu jusqu'à nous. Tu nous as aimés, tu t'es donné, et tu as mis en nous ton esprit. Tu nous donnes un cœur nouveau, tu nous régénères chaque jour. Et Seigneur, ton plan dans ta grâce n'est pas que nous finissions seuls dans notre coin, mais que nous soyons capables de tisser des relations de qualité, que nous puissions trouver notre place au sein de ton corps grandiose. Seigneur, j'aimerais prier pour chacun des personnes ici. J'aimerais également prier pour notre Église. De prier, Seigneur, pour que chacun et en tant que communauté, nous puissions vraiment être à l'écoute de ta voix, que nous soyons souples entre tes mains, que nous soyons prêts, Seigneur, à être conduits par toi et que nous puissions ensemble, mutuellement, profiter les uns des autres, profiter de cette communauté que dans ta souveraineté, dans ta grâce, tu as créée. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions recevoir des uns tout ce que tu veux nous donner, mais que nous ayons aussi la liberté de donner aux autres ce que tu veux que nous leur partagions. Et qu'ainsi, ensemble, mutuellement, chacun avec nos spécificités, chacun avec nos dons, nous puissions nous compléter, car aucun de nous, Seigneur, n'est parfait, aucun de nous n'est indépendant, et nous avons tous besoin des autres. Que mutuellement, Seigneur, tu puisses faire grandir notre Église. Je prie également, Seigneur, pour les autres communautés de Villefranche, que tu puisses également les faire grandir, nos frères et sœurs en Christ. Je prie également pour que chaque Église au travers du monde, Seigneur, puisse grandir en toi. Et que ces diversités au sein de nos communautés soient dans ton corps global, dans l'Église universelle, encore plus de richesses. Mais que tous ensemble, là où tu nous as placés, dans notre culture, dans la ville où tu nous as placés, nous puissions chacun être fidèles, accomplir la mission en particulier que nous a confiée, et qu'ainsi nous puissions vraiment répondre à notre vocation, celle d'être tes enfants, celle d'être un corps vivant, soudé, uni, qui marche pour toi, qui marche en toi, qui marche à ta suite. Amen.